Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Magnum.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je vous propose de sauter dans votre Ferrari, de saluer Higgins et de démarrer en trombe à travers les lacets et routes sinueuses de l'île d'Oahu à Hawaï. Un petit regard caméra, un haussement de sourcils, un sourire, une fossette, vous êtes Thomas Sullivan Magnum. Vous avez remarqué que je ne vous demande même pas d'avoir de moustache. Ben oui, Magnum c'est bien plus qu'une moustache, même si ça a été le symbole de la série en raison de la pilosité faciale d'un acteur qui vous a incarné, Tom Selleck. Mais le nouveau, celui qui est maintenant vous, Jay Hernandez, ben il n'en a pas de moustache. Cela n'empêche pas d'être Thomas Magnum dans une toute nouvelle version que vous pourrez bientôt découvrir sur TF1. Un remake explosif, spectaculaire, où vous faites exploser deux Ferrari dans le premier épisode et faites un saut en parachute depuis l'espace. Bim ! Rien que ça. Et vous y fréquentez aussi Tissy et Rick. Vous êtes aussi le responsable de la sécurité de la résidence d'un grand romancier à succès qui ne vient presque jamais. Et votre meilleur ennemi est toujours Higgins, patron de la résidence. Sauf que, cette fois-ci, c'est Juliette Higgins. Dans votre précédente incarnation, c'était Jonathan Coel Higgins III, employé de Robin Masters, l'auteur à succès dont la voix, dans vos premières aventures, quand vous l'entendiez au téléphone, vous faisait furieusement penser à Orson Welles. Ouais, la ressemblance était frappante, hein. Pas moins que... On verra plus tard. Si Magnum n'est pas qu'une moustache, c'est avant tout un détective privé, ancien soldat de la Navy et surtout vétéran de la guerre du Vietnam, en tout cas dans la première version. Et surtout, c'est un personnage souriant, drôle, insouciant, nonchalant, taquin et blagueur, du moins en apparence. Voilà, les apparences. Vous, Thomas Magnum, êtes bien moins superficiel que vous en avez l'air. Même si vous aimez les voitures rapides et les blondes qui le sont moins, ça c'était la pub de votre première apparition qui le disait, c'est cette profondeur que je vous propose d'explorer ensemble. Allez, allongez-vous sur le divan, respirez bien. Ça va ? Le divan est assez grand, hein ? Bon, vous faites 1m93 tout de même, donc je vous pose la question, hein. Votre naissance, Thomas, vous la devez à plusieurs fées qui se sont penchées sur votre berceau. On va les passer en revue. Mais simplement pour vous montrer que si vous êtes là en 2019, ça n'a pourtant pas été simple. Votre naissance, c'était quasiment au forceps. La première fée, c'est Hawaï, l'un des États d'Amérique. Le seul situé en dehors du continent nord-américain. Alors oui, ces 137 îles qui constituent l'archipel d'Hawaï sont paradisiaques, avec des paysages, une météo, des plages, bref, paradisiaques. Sauf qu'à Hawaï, il y a aussi une industrie qui a besoin de vivre. Et entre autres, l'industrie de la télévision. Le network CBS a toujours voulu profiter de cet endroit, tout comme le concurrent ABC l'avait fait auparavant avec Hawaiian High en 1959, une série qui en français s'appelait Intrigue à Hawaï, et c'était avec Robert Conrad. Mais cette série a été tournée en studio à Los Angeles. CBS lança donc la série qui tira le plus parti de cet endroit paradisiaque, et c'était Hawaii Police d'État, Hawaii 5-0, qui connut un incroyable succès et une longévité insensée. 12 saisons, 280 épisodes, 280 enquêtes menées par McGarrett et son équipe, McGarrett interprété avec une rigueur absolue par un acteur à la mâchoire carrée, Jack Lord. Une sorte d'incorruptible, implacable et inflexible, toujours en costume et en cravate, jamais souriant, jamais faillible. Et si cette série a participé à votre naissance, à vous, Thomas Magnum, ce n'est pas à cause de Jack Lord, qui refusa obstinément d'apparaître à vos côtés. Non, c'est pour sa logistique. En effet, au bout de quelques saisons, la CBS a décidé de faire construire spécialement pour cette série, Hawaii Police d'État, la toute nouvelle infrastructure sur place. Un studio situé à Diamond Head, sur l'île d'Oahu. Un studio tout entier, avec des bureaux de production, des locaux pour les costumes, pour les décors, pour les construire, et puis des studios pour tourner la série. Un gros investissement, mais extrêmement rentable, quand une série se déroule sur place. Parce que sinon, les coûts de location dans des hangars, qui ne sont pas réellement adaptés, deviennent prohibitifs. Même si là, c'était quand même aussi un peu un hangar. Hein. Mais enfin bon. Donc, ces studios, ils existent. Et oui, Police d'État va s'arrêter. Ça y est. Vous voyez un peu le problème ? Il faut de toute urgence soit vendre les studios, soit trouver de quoi les rentabiliser. Et donc faire une nouvelle série hebdomadaire, hein, ça serait l'idéal. Et c'est pour cette seule raison de la simple logistique économique que votre personnage est à Hawaï. Donc ce souci de rentabilité, c'est bel et bien une de vos bonnes fées. bonne fée a pour nom Glenn Larson. C'est un créateur télé, maintenant un peu oublié, à qui on doit un paquet absolument monstrueux de séries dont certaines sont devenues iconiques. K2000, L'Homme qui valait 3 milliards, Galactica, Super Jimmy, Buck Rogers, Manimal, Automan, L'Homme qui tombe à pic, tout ça c'est lui. Donc un spécialiste de la série d'entertainment, de distraction, la série très grand public. C'est lui qui va te créer. En bref, c'est ton papa, Thomas. Glenn va écrire le scénario pour un héros qui vit à Hawaï. Il va te donner ton nom et faire donc de toi une espèce de Superman, un agent secret à la James Bond, aussi carré que l'était la mâchoire de Jack Lord, avec plein de gadgets. La bonne fée suivante fait exactement ta taille. Il possède un physique de joueur de basket, bah c'est un peu normal, il a joué au basket. Il a 35 ans et il a même participé à la version américaine de Tournée Manège. Dating game. Lui, il s'appelle Tom Selleck et personne ne le connaît. Mais alors, franchement, personne de chez personne. Sauf les gens de la maison de production Universal qui l'ont quand même repéré suite à son rôle une année durant dans Les Feux de l'amour. Ils ont apprécié son sex appeal et l'ont pris sous contrat. Sauf que tout ce qu'il a fait pour l'instant est franchement insignifiant. Genre un soldat dans le film La bataille de Midway, un cadavre dans le film Mort suspecte, un personnage dans la mini-série Le clan des Sackett aux côtés de Sam Elliott, et des pilotes. Plein de pilotes qui au final ne sont pas retenus par les chaînes à qui ils sont destinés. Dans Bestiaire of Our Lives, il est un soldat qui rentre au pays. Dans Bunko, il déjoue les plans d'arnaqueurs aux côtés de Robert Urich. Dans The Gypsy Warrior, il est un espion dans une équipe d'agents infiltrés en France pendant la dernière guerre mondiale. Dans Boston et Kilbride, il est un agent associé à un geek en informatique pour remplir des missions. Il a été Lance White, un détective privé gaffeur habillé de blanc qui parodiait Mannix. Dans deux épisodes de la série Rockford Files, $200 plus les frais. C'était une série dans laquelle jouait James Gardner. Mais là aussi, Lance White ne devient même pas le héros de sa propre série. Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Le prochain pilote que Universal lui demande de faire pour tenter de le propulser sur le devant de la scène, c'est justement le script de Glenn Larson. C'est justement Magnum, vous, le James Bond qui se bagarre à Hawaï avec ses gadgets. Alors, on va mettre ça sur la fatigue, sur le découragement, mais Tom Selleck est pas foufou, hein. Il est pas plus enthousiaste que ça. C'était pas mal, c'était un bon scénario, mais ce n'était pas pour moi, disait-il. Je voulais que le type fasse des erreurs et des défauts. Je voulais pas avoir l'air d'un macho et je voulais pas toujours tomber la jolie fille de l'épisode. Un peu par dépit, il va donc se confier à James Gardner, avec qui il vient de jouer dans $200 plus les frais. James, j'ai ce contrat avec Universal, il me demande de faire ce truc, la Magnum, et j'aime pas ça du tout. Le mec a une femme sous chaque bras, il roule en Ferrari, non, vraiment, c'est pas mon truc. Et James Gardner lui répond, ils te veulent sur ce pilote. S'ils te veulent vraiment, c'est le seul pouvoir dont tu peux disposer pour l'instant. Tom Selleck réfléchit à ce que James Gardner vient de lui dire, il va donc refuser de jouer le pilote de Magnum. Ouais, vous avez bien entendu, Thomas, tu m'as bien entendu, il ne veut pas de toi. Mais quelle outrecuidance ! À ce moment-là arrive la quatrième fée qui s'est penchée sur ton berceau. Après Hawaï, après Glenn Larson, après Tom Selleck, cette fée-là, c'est un jeune scénariste qui a bossé sur Les Têtes Brûlées et un peu sur Battlestar Galactica de Glenn Larson. Et puis tu lui demandes, parce que tu le connais, qu'il pourrait pas jeter un petit coup d'œil là sur ce scénario, Magnum, là. Écoute ce qu'il disait de toi.
Glenn
avait écrit un pilote pour Magnum. Pour Tom Selleck. C'était comme un James Bond. Vraiment, c'était 007, quoi. Tom ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas interpréter un personnage comme 007, qui fait du deltaplane, avec des fusils automatiques, et une montre dans laquelle il parle, et des choses comme ça. Il a dit qu'il ne voulait pas faire ça. Donc Glenn est parti, et j'ai tout recommencé du début. Puis j'ai produit le pilote. Le scénariste en question que tu viens d'entendre, Thomas, c'est Donald Bellisario, celui qui deviendra par la suite le créateur et producteur de Supercopter, de Code Quantum, de JAG et de NCIS. Lui et Tom Selleck vont donc se rencontrer, faire réellement naître ton personnage de Magnum. Tom et moi avons discuté de son personnage. Et nous avons décidé de ce qu'il allait jouer. Il est tellement beau qu'il devait jouer quelqu'un qui ne conclut pas avec la fille. Quelqu'un qui s'en mêle les pieds. Et la chose importante que je pense avoir amenée était une ligne de dialogue très importante dans le pilote. Si vous regardez le pilote original de Magnum, il y a cette réplique. en voix off, où il déclare « Un jour, je me suis réveillé à 33 ans et j'ai réalisé que je n'en avais jamais eu 23. » Et c'était ce qui définissait son personnage. Il était un homme au début de ses 33 ans, mais qui n'avait jamais eu 23 ans. Et il jouait comme ça. Il interprétait un gosse qui était encore quasiment à l'université et s'amusait beaucoup. Il n'arrivait pas à séduire les filles la moitié du temps, il fait des erreurs. Et bien sûr, comme il s'agissait d'une série à propos d'un détective et qu'il en était le héros, ses erreurs étaient sans conséquence quand il s'agissait de démêler la situation. Belisario, grand amateur de détective hardball des années 40, pense un petit peu à Chandler et beaucoup à Richard Pryor et à son personnage Shell Scott, un ancien marine de la Seconde Guerre mondiale. Il va d'ailleurs aussi penser au personnage de Humphrey Bogart dans Casablanca pour le personnage de Rick, interprété par Larry Manetti des Têtes Brûlées, qui tente maladroitement de ressembler à son héros de cinéma. Rick va ensuite tenir le club, le King Kamehameha. Mais en réalité, Thomas, ton second papa, Donald Belisario, c'est un peu un roublard. Hein, parce que il avait déjà eu un fils qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Un certain Flynn ou Cutter, il se rappelle plus très bien. À ce moment-là, je développais une autre série qui s'appelait... j'arrive pas à m'en souvenir. Je crois que ça s'appelait Cutter. J'ai développé pour que ça se passe aux États-Unis. C'était à propos d'un détective privé de Beverly Hills sur Rodeo Drive. Il conduit une Ferrari, mais elle ne lui appartient pas. Il vit dans un domaine qui n'est pas le sien, dans la maison d'amis sur Beverly Hills. Et il a ses amis, deux amis, qui ont fait le Vietnam avec lui et qui sont à San Pedro. L'un d'eux tient un bar, l'autre est un pilote d'hélicoptère qui fait des allers-retours vers des plateformes pétrolières. Et la personne qui gère le domaine est un majordome nommé Higgins qui s'en occupe pour des hommes fortunés de Beverly Hills. Et donc, quand ils m'ont dit « On a Tom Selleck comme détective privé à Hawaï », tout ce que j'ai fait, c'est de tout transférer à Hawaï. Dans ce nouveau script, tu deviens donc le Thomas Sullivan Magnum que tout le monde connaît. Débonnaire, nonchalant, souriant, sportif, et tu vas directement t'adresser au spectateur. On appelle ça briser le quatrième mur. Parce que sur un tournage, il y a le décor qui n'a que trois murs, devant, à droite et à gauche. Le quatrième mur, c'est là où il y a la caméra et l'équipe de tournage, où dans la réalité, il y aurait un quatrième mur dans la pièce. Dans le script, c'est la voix de Magnum qui raconte l'histoire en s'adressant directement au spectateur. Et sur le tournage, Tom Selleck adressera un regard complice à la caméra juste au moment où il monte dans la Ferrari et qu'il échappe à Apollon et à Zeus. Dès le début, tu es donc avec tes spectateurs. Ils sont dans la confidence. À chaque épisode, il y avait un moment où il regardait directement la caméra, entrait en contact avec les téléspectateurs et disait une phrase ou lançait un regard, l'un ou l'autre. À chaque épisode. Et on m'avait dit au début, vous ne pouvez pas faire ça. Vous brisez le quatrième mur. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est la suspension d'incrédulité. Et j'ai répondu, ils vont adorer. Ils vont adorer. Il a un contact direct avec les téléspectateurs. Et donc, on l'a fait. Dans chaque épisode, vous retrouverez des moments où il se tourne et regarde directement la caméra. Tu es donc très différent des autres détectives sans peur et sans reproche de la télévision. Tu ne cherches pas la bagarre, tu ne portes pas d'armes, sauf si c'est absolument nécessaire. Tu commets des gaffes. Il va même t'arriver des aventures absolument incroyables. Dans un épisode fameux, record battu, tu es perdu en mer après être tombé de ton surf. Tu ne vas pas abandonner et finir par être sauvé par tes amis qui ont pressenti que quelque chose se passait. Dans un autre épisode, Meurtre dans la nuit, là carrément ça se déroule entièrement dans les années 40 et c'est tourné à la façon d'un film noir de cette époque. De plus, on va te donner un autre père, un troisième père. Alors, décidément, ça n'arrête pas. Un troisième père, mais celui-ci, il est dans la série, devant la caméra. C'est Higgins, l'exact opposé de toi, froid, autoritaire, arrogant et snob. Sa relation avec Magnum est vraiment une relation père-fils, si vous l'analysez. C'est vraiment à ça que ça aboutit. Il était le père très strict et Magnum était le garçon joueur et espiègle, toujours en rébellion. Et parfois, ils se disputent comme dans un couple, un vieux couple marié. « Tes aventures auraient dû démarrer à la rentrée 1980 pour faire suite justement à Hawaii Police d'État. Mais la grève des acteurs retarde le tournage des épisodes et la série ne sera lancée que 3 mois plus tard, en décembre. Il y a même eu un accident grave d'hélicoptère qui a marqué la première saison. Le caméraman et un cascadeur y trouvent la mort. Les deux premières saisons obtiennent une audience adéquate, on va dire ça, hein, voilà. Ça fait pas vraiment des étincelles, mais c'est adéquat, quoi, voilà. Et les audiences vont littéralement exploser à la saison 3, où la série va faire un bond spectaculaire pour se retrouver 3e au classement annuel des programmes télé. Donc maintenant, ta série est un carton. Et toi, Thomas Sullivan Magnum, tu deviens un personnage populaire et iconique. À partir de ce moment, Donald Belisario va pouvoir t'étoffer et te faire évoluer. Il va donc creuser ta vie privée et surtout le fait que, face aux myriades de jolies filles qui croisent ton chemin, aucune ne parvient à te retenir. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi il ne s'implique pas ? Et j'ai écrit, il se languit toujours de sa femme. Il était marié, elle est morte et il ne s'en remet pas. Et j'ai continué. Bing ! Elle n'est pas morte, mais il ne le sait pas. Et c'est devenu le départ de la deuxième saison. Nous présentons sa femme, qui était mariée à un officier vietnamien qui a simulé sa propre mort, car elle savait qu'il ne la laisserait pas au Vietnam. Et c'était le début de la saison. Un peu plus tard, nous présentions la fille qu'il avait eue sans le savoir. C'était très amusant, mais ça a créé un personnage très intéressant. Interprète, être Thomas Magnum, bon, c'est bien, mais ça quand même un peu sévère. Tom Selleck m'a raconté, et je reprends exactement ses mots, que, à l'époque, le pilote était tourné, mais il n'avait pas encore de feu vert. La série n'avait pas encore été commandée. La chaîne CBS avait donc la priorité. Et Steven Spielberg et George Lucas sont intervenus. Ils ont tenté de convaincre CBS d'attendre un peu avant de le valider, avant de lancer la série, en leur disant que si je faisais leur film à eux d'abord, je deviendrais encore plus célèbre. Et comme ça, ensuite, ils pourront lancer la série, ça ne sera que mieux, hein. Mais ça a eu l'effet inverse. Plus ils insistaient, plus la CBS voulait faire la série. À leurs yeux, l'insistance de Steven Spielberg et de George Lucas prouvait que j'étais très important. Et j'ai dû laisser passer le film. Le film de Spielberg et Lucas dans lequel Tom Selleck devait tenir le rôle principal, celui dont il m'avait parlé à l'époque, c'était Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et le rôle, c'était celui d'Indiana Jones. Belisario décide d'explorer de toi une autre facette, bien plus sombre. Car tu n'es pas, finalement, un type si adorable que ça, un gentil maladroit. C'était dans le premier épisode de la saison 3. Avez-vous vu le soleil se lever ? Où un ami proche de Magnum se fait assassiner par un certain Ivan, incarné par l'acteur Bo Svensson. À la fin de l'épisode, Magnum parvient à le coincer. Mais Ivan jouit d'une immunité diplomatique et il est tout prêt à quitter Hawaï. Je laisse Belisario le soin de nous raconter la suite. Pour la télévision américaine, si quelqu'un commet un crime, il y a une sorte de règle qui dit qu'à la fin de l'épisode, vous devez montrer qu'il a été puni pour ça. La version la plus importante de cette règle est qu'on ne peut pas laisser le héros tuer quelqu'un de sang-froid. Et Magnum emmène le méchant dans la jungle et Svensson lui dit « Je n'ai pas d'arme, je ne vais pas me battre contre toi. Tu es américain, tu ne peux pas me tuer de sang-froid. » Et lui dit puis il se retourne et il commence à s'éloigner. Nous passons à un plan très serré sur Magnum qui dit « Ivan ». Ivan se retourne. As-tu vu le soleil se lever ? En référence au début de l'épisode. Ivan lui répond quoi ? Il se tourne face à la caméra et tire. Fin de l'épisode. On m'a dit, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Hein. Vous l'avez tué de sang-froid. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous ne pouvez pas avoir un héros qui tue quelqu'un de sang-froid. Et j'ai répondu, c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça. Ils m'ont dit, non, vous devez tourner une autre fin. Il faut que Svensson ait une arme. Il faut qu'il attaque Tom. J'ai répondu non. Et Selleck a dit « Non, je ne le retournerai pas d'une autre manière. C'est comme ça que nous terminons l'épisode. » Donc ils l'ont diffusé. Et beaucoup d'annonceurs ont retiré leur publicité à cause de ça. Mais le lendemain, On en parlait dans tous les talk-shows d'Amérique. On a reçu des milliers de lettres à ce sujet, toutes positives. Nous avions créé un personnage vraiment mauvais que Magnum tue, mais il le fait de sang-froid. Il l'a tué comme un justicier, mais c'était fidèle au personnage. Et c'était aussi, à ma connaissance, la première fois qu'un héros dans une série télé américaine faisait quelque chose comme ça. Simplement se venger, sans passer par le système judiciaire. Mais ça correspondait au personnage, et c'est ce qui importait. Mais revenons maintenant à la lumière. Hawaï est bien sûr un élément essentiel de la série. On peut te retirer la moustache, Thomas, mais on ne peut pas t'enlever Hawaï. Bon, évidemment, c'est une version un peu carte postale, mais sa luminosité permet de donner une certaine insouciance au personnage, de justifier son côté grand enfant, qu'il n'aurait forcément pas eu s'il évoluait dans les bas quartiers de New York ou dans les rues de San Francisco. Mais c'est quand même bel et bien à Hawaï fantasmé que la série nous montre. Et pour cause. Je n'ai jamais été à Hawaï. Au moment où j'ai écrit le pilote, je n'ai jamais été à Hawaï. Je me suis trouvé un guide de voyage, je l'ai posé à côté de moi, et quand j'ai écrit le pilote, c'était à partir de ce guide. Les lieux, les routes, j'ai simplement utilisé mon imagination. Et quand je suis arrivé là-bas, les gens me disaient « Ah, on sait où vous voulez tourner ça. Nous savons où se trouve ce lieu. » C'était plutôt amusant parce que tout le monde pensait que je connaissais Hawaï de fond en comble, alors que j'avais simplement un guide de voyage. Et que je possède toujours d'ailleurs. Ensuite, je l'ai écrit pour Hawaï, mais quand je l'ai fait, j'ai décidé de créer un Hawaï qui n'existait plus vraiment. J'ai mis en place un ensemble de règles sur la façon de tourner. Vous ne devez jamais filmer une plage avec un immeuble visible. Vous ne devez jamais filmer une route avec une ligne électrique. Si nous étions dans le centre-ville, à Hawaï ou à Waikiki, ça passait. Nous le filmions et nous le montrions tel quel. Mais je voulais un Hawaï plus primitif, un Hawaï magnifique, avec des plages de sable, des endroits isolés. Pas de ligne électrique qui le traversait. Et c'est devenu la règle. Je me souviens, pour l'épisode 3, le réalisateur a filmé un moment où il marchait sur la plage avec quelques appartements qui n'étaient pas vraiment gênants. Ils étaient juste derrière des arbres en arrière-plan. Mais je voulais faire retourner la scène afin que l'on ne voit plus les appartements. Ça donnait une apparence, une sensation d'Hawaï bien plus proche de Tahiti. Et voilà le secret. On se croirait à Tahiti quand on regarde ta série, Magnum. Dans les 9 premiers épisodes de ta série, le générique et la musique sont très différentes. Ils sont dus à Jan Fribern Smith. C'est cette musique-là qu'on entend actuellement. Mais on sent bien que ça convient pas. Hein. L'énergie qui se dégage de toi, de Hawaï, de la série, n'y est pas vraiment. Alors, on va faire appel à Mike Post, un compositeur qui a composé des musiques mythiques. East Street Blues, Code Quantum, L'Agence Touriste, Creek Hunter, Un flic de la mafia, et plus tard, New York District et NYPD Blue, c'est lui, c'est Mike Post, un très très grand compositeur. Et avec Peter Carpenter, il va composer un générique qui deviendra mythique, un générique même que tout le monde finit par fredonner. Tiens, écoute. Voilà, mais la version dans la série, c'est celle-là, en fait. Hein. Il y a une autre facette de ta personnalité, Thomas, qui est moins omniprésente en France, tant la diffusion et le doublage tentaient à gommer un petit peu les références à cet aspect de ta vie. Mais, Tom, tu es un vétéran du Vietnam. Toi, mais pas seulement, hein, Tissi, Rick et d'autres amis du front qui, au fil des épisodes, viendront à Hawaï. Dès le tout premier épisode, via des flashbacks en sépia, on nous montre ta vie en tant que soldat. Ton passé est douloureux, tes blessures encore présentes et pourtant, tu es un personnage lumineux. Ça change tout. Ça explique tes faces sombres. Ça explique pourquoi tu peux abattre de son froid Yvan dans le fameux épisode que Belisario nous a raconté. Parce qu'avant Magnum, en ce qui concerne la télévision, on crachait sur les vétérans du Vietnam. Ils étaient soit des drogués ou alors des fous. Ils jetaient les gens depuis les toits. Mais il n'avait jamais de vétéran du Vietnam qui était simplement gentil et qui était capable de mener une vie normale. Ou aussi normal qu'une vie de héros de télévision peut l'être. Je n'avais même pas réalisé que nous faisions ça. C'était juste la manière que j'avais de les considérer. Et soudain, j'ai commencé à recevoir cette quantité impressionnante de lettres de vétérans de tout le pays qui me disaient « Dieu merci, quelqu'un nous représente à nouveau comme des êtres humains décents ». Tout le monde sait à quel point cette guerre était une erreur. Mais nous persécutions les vétérans, les soldats quand ils étaient de retour. Mais vous ne persécutez pas les soldats à cause de décisions politiques qui ont été prises et qui les ont forcés à combattre. Un soldat est un soldat. Il va, on vous envoie pour combattre et défendre l'objectif assigné. Et j'étais heureux de dissiper ces doutes et de permettre leur acceptation. Hawaï est un groupe d'îles très fréquenté. Et la liste des vedettes invitées est très longue, comme Sharon Stone ou Shannen Doherty. Et surtout, Frank Sinatra, qui était un ami proche de Larry Manetti et qui a accepté de faire une de ses très rares prestations pour la télévision. Il n'avait en fait tourné qu'un grand téléfilm policier, Contract on Chow Street. Il revient donc sur les lieux de son grand succès cinématographique, Tant qu'il y aura des hommes. Robert Selleck, le père de Tom Selleck, a même tenu le rôle de ton grand-père, Thomas. Et tu as même rencontré un agent secret britannique qui se prend pour Sherlock Holmes et qui était interprété par Patrick McNee, l'inoubliable Steed de Chapeau Noir et Bottes de Cuir. Vont aussi débarquer à Hawaï la fameuse romancière Jessica Fletcher, à savoir Angela Lansbury, et les deux frères Simon, Jameson Parker et Gérald McRaney. C'était pour des épisodes crossover avec les séries Arabesque et Simon et Simon. Il y avait beaucoup de monde qui souhaitait faire une apparition dans notre série, car c'était de super vacances. Ils prenaient l'avion pour Hawaï, logeaient dans un magnifique hôtel qui était très proche de Diamond Head. Les studios étaient à peine à plus d'un kilomètre de là. C'était des vacances formidables et nous nous arrangions pour qu'ils puissent rester quelques jours de plus. Donc, ce n'était pas très compliqué de trouver de bons acteurs invités. Quant à toi, Thomas, tu as même remporté un Emmy Award, meilleur acteur en 1984 et Golden Globe du meilleur acteur l'année suivante. Après 7 saisons d'aventures trépidantes, il est temps pour toi de raccrocher. Donc, à la fin de cette 7e saison, tu meurs. Et tu montes au paradis. Ouais, mais non, je rigole pas, hein. Tu te souviens pas ? Tu es touché par une balle et tu es amené à l'hôpital et là, tu vas rendre l'âme. Ou pas ? Ben oui, parce que au final, tu vas pas partir tout de suite. Tom Selleck, le contrat de lié à la série pour les 7 saisons venait donc de s'achever, accepte finalement de revenir, moyennant un salaire important et un bonus de $350,000. Le gredin s'est acheté avec ça des Rolex, des Porsche et même $1,000 sont allés en remerciement aux membres de l'équipe de la série. Mais donc, tu es mort. C'est bien de décider de revenir, mais comment faire ? Ben simple. On a changé le montage de l'épisode. Dans la nouvelle version qui diffusait à la rentrée 1987, tu es toujours à l'hôpital, mais tu sors du coma. Voilà, tu as rêvé que tu allais au paradis, mais non, en fait, t'étais dans le coma, quoi. Une douzaine d'épisodes plus tard, ta série se termine réellement cette fois. Tu y retrouves ta fille et tu retournes dans l'armée. On te voit en grande tenue de soldat de la marine américaine. Ton papa, Donald Belisario, n'était plus là pour cette dernière histoire. Il était très accaparé par d'autres séries et d'autres fils. Stringfellow Hawk, par exemple, le fils qu'il avait de Supercopter, et Sam Beckett de Code Quantum. Mais il nous a raconté quelle est la fin que lui aurait imaginée pour la série, et elle renvoyait directement au fameux épisode où, tu te souviens, tu flingues Ivan de sang-froid. L'histoire que je voulais écrire pour cet épisode concernait la mort d'Ivan.
The killing of Ivan,
qu'il avait tué de sang-froid.
Which he did in cold blood.
That Ivan's le corps d'Ivan aurait été retrouvé et les balles auraient permis de remonter jusqu'à Magnum. Il aurait été jugé pour meurtre et reconnu coupable.
And he is convicted of murder.
And puis, il aurait été sauvé par ses amis.
By his friends,
il aurait changé d'identité et se serait à nouveau engagé dans la Navy. C'est ce que j'aurais écrit si j'en avais eu le temps. Ton interprète, Tom Selleck, n'est pas resté inactif pour autant. Avec Larry Manetti, il a ouvert un restaurant à Hawaï, l'Orchidée Noire. Au cinéma, il a été un aventurier pilote d'avion pendant la guerre 14-18 dans Les Aventuriers du Bout du Monde. Il a été cambrioleur dans Signé Lassiter. Il a été un flic du futur dans Runaway et un papa par obligation dans le remake américain de Trois hommes et un couffin. Trois hommes et un bébé. C'était aux côtés de Ted Danson. On l'a revu à la télévision dans Friends, dans sa propre sitcom The Closer, dans Boston Justice, dans des téléfilms de la série Jesse Stone. Et il est dorénavant le patriarche d'une famille de policiers dans la série Blue Bloods. Et toi, Thomas, même si on relance régulièrement l'idée de te revoir au cinéma, c'est finalement à la télévision que tu es revenu la saison dernière, suivant ainsi l'exemple de tes camarades MacGyver ou de Hawaii Five-O. Reste un mystère. Qui est Robin Masters? Est-ce que c'est Higgins? Écoute, c'est simple, on va demander à ton papa, Donald Belisario. Lui, il doit savoir quand même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Higgins n'est pas Robin Masters. La voix de Robin Masters était enregistrée à l'origine par Orson Welles. Je faisais venir Orson Welles et je lui faisais enregistrer la voix. Et en le gardant mystérieux et jamais visible, cela rajoutait un élément à la série que je trouvais formidable. Parfois, on me disait, vous devez nous montrer Robin Masters. Ne le montrons pas. C'est mieux de garder le mystère. Voilà Thomas Sullivan Magnum, voilà ton histoire. On peut continuer de la voir en Blu-ray parce que tous tes épisodes ont été restaurés d'après les 35 mm d'origine et sont maintenant encore plus lumineux que par le passé. Pour Hawaï, ça vaut la peine. Et bientôt, on te verra même sur TF1. Allez, aloha Magnum. La semaine prochaine, réglez vos montres, évitez les crises d'asthme en parlant comme ça et prévoyez d'aller aux toilettes avant de vous lancer dans 24 heures chrono, la série avec notre ami Vessie d'Acier. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.